Monsieur le Président, je l'admettrai sans peine, le coup de la rigueur était une rengaine. Aujourd'hui, croyez-moi, je ne plaisante plus. L'esprit de comédie est tout à fait exclu. La faillite nous gagne et disloque nos comptes. Des dépenses l'envolent, des recettes la fonte. Le budget de l'État est en train de sombrer. De ma déconfiture, vous ne pouvez douter.
Eh bien, c'est la poétique de l'économie. Ce soir, dans le rendez-vous en direct sur France Culture, il sera question des subprimes, d'opéra bouffe, d'Haïti, de poésie, de finance et même de crack. Plateau mexicain avec Jorge Volpi qui signe Les Bandits, un roman composé comme un opéra bouffe pour un personnage d'escroc au sein d'un scandale financier à New York, Manu Farine.
Un opéra semé de péripéties et de catastrophes, de subterfuges et de duplicité, et un roman mutant composé comme le lieu de tous les mélanges.
19h30, la chronique Vanity Fair d'Anne Boulay. Ce soir, à votre programme, Anne.
Un monstre sacré ou un sacré monstre, c'est comme vous voulez.
Gérard Depardieu. 19h35, plateau Haïti avec Lionel Trouillot pour son anthologie poétique. C'est avec main qu'on fait des chansons. Première publication en France pour l'œuvre poétique d'un écrivain qu'on connaît surtout ici en France comme romancier, Benoît Lagan.
Oui, avec l'auteur des romans Rue des pas perdus, La belle amour humaine ou encore Parabole du failli. Retour sur son savoir-faire poétique pour qui écrit « Affronter la poésie, c'est vivre dans le doute », il nous expliquera.
Eh ben, ça a été difficile à prononcer. Hein. Sans oublier la session live du mardi, pop française ce soir avec Pascal Borel, Elsa Béranger.
Une pop douce comme un abricot, travailleuse comme une fourmi, avec une voix qui tient toutes ses promesses. Pour ne citer que quelques titres de cet album joyeusement malicieux.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez en pleine forme et lève les bras, qui s'ouvre sur le son du jour.
ما كتشوف فيا قحبه كتخسر الهضره باش نمشي نهضر بالدمياطي راه ندوش كتعرف تجري 8 بدرمتك ومعك كنهضر الزب سمعني
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent Gomard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et il est en VO.
Il est en arabe, dialecte marocain précisément. On entend une prostituée expérimentée qui briefe une jeune prostituée qui débute. C'est un extrait du film Much Loved du réalisateur marocain Nabil Ayouch, un film qui évoque donc la prostitution au Maroc. Pratique très courante, mais sujet très tabou. Nabil Ayouch a rencontré près de 200 prostituées marocaines pour écrire le scénario. Il y présente des scènes, il faut le dire, parfois très crues. Le film qui a été tourné à Marrakech a été présenté à Cannes lors de la quinzaine des réalisateurs. Et à peine le festival terminé, le gouvernement marocain, emmené par les islamistes du parti Justice et Développement, ont indiqué dans un communiqué aujourd'hui qu'elles ont décidé de ne pas autoriser sa projection au Maroc. Le centre cinématographique marocain, le CCM, a regardé le film lors de sa projection dans le cadre du festival de Cannes et avance qu'il comporte, je cite, un outrage grave aux valeurs morales et à l'image de la femme marocaine et une attente flagrante à l'image de notre royaume. Une association marocaine a par ailleurs décidé de porter plainte à la fois contre le réalisateur et contre Loumna Abidar qui campe le rôle du personnage principal, ainsi que tous ceux qui ont contribué au film.
Un dossier à suivre. Tout de suite, on passe au dossier du jour. La nouvelle a fait l'effet d'une petite bombe aujourd'hui. Le géant de la vente en ligne Amazon a en effet annoncé qu'il va enfin payer ses impôts en France. Jusqu'ici, le groupe comptabilisait ses ventes sur le territoire européen via son siège au Luxembourg où il payait très peu d'impôts. Mais il annonce qu'aujourd'hui, que depuis le 1er mai, Amazon enregistre les ventes réalisées à travers ses branches au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Le groupe compte ouvrir une filiale française, ce qui l'obligera à terme à payer ses impôts ici.
Alors, c'est une bonne nouvelle, en tout cas une nouvelle extrêmement attendue, puisque la France et les Européens étaient depuis 15 ans, date de l'arrivée d'Amazon, en tout cas sur le marché français, en guerre avec ce géant qui a complètement bouleversé, il faut le dire, l'économie et le marché du livre. Amazon qui fait depuis plusieurs mois l'objet d'un redressement fiscal en France. Rien que pour la période 2004-2010, il doit 250 millions d'euros à l'État français. Cette annonce est donc l'aboutissement d'un combat acharné, mais les acteurs du métier du livre refusent de parler d'une bonne nouvelle. Écoutez, Vincent Monadet, il est président du Centre national du livre.
Il y a évidemment déjà un combat des ministres français de la culture, Aurélie Filippetti et Fleur Pellerin, sur le sujet en France, relayé par nos homologues allemands, italiens, etc., qui a fini par faire bouger la commission, en tous les cas la nouvelle commission, puisque l'ancienne n'avait jamais bougé une oreille, et par déclencher une enquête de la commission. Donc je pense que maintenant, Amazon, qui a des contentieux fiscaux dans plusieurs pays d'Europe, qui a une enquête de la commission sur le dos, se met en conformité conformité avec les lois des États. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais je vais quand même pas me réjouir parce que des gens décident de payer leurs impôts. Ils sont sortis de leur amnésie fiscale, bon, très bien, dont acte. Ce qui était une mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne les payent pas.
Une question se pose maintenant. Quelles peuvent être les conséquences de cette annonce sur le marché du livre en France ?
Le marché du livre qui a clairement beaucoup souffert de cette arrivée d'Amazon, en particulier évidemment les libraires, d'une concurrence qui était jusqu'ici déloyale, disait-il. Alors on peut se dire que maintenant la concurrence va être un peu moins déloyale, puisque si Amazon se met à payer ses impôts, en France en tout cas, logiquement, le groupe devrait en tout cas vouloir répercuter le coût à un niveau ou à un autre. Dans le scénario idéal, par exemple, il serait obligé de casser un peu moins les prix. Mais pour autant, les libraires sont extrêmement prudents. Pour Guillaume Esson, il est délégué général du syndicat des libraires de France, eh bien, il est encore beaucoup trop tôt pour prédire les conséquences de cette annonce.
Ça peut en avoir, par exemple, au niveau du prix du coût des frais de port qu'Amazon facture, hein, puisque la stratégie d'Amazon jusqu'à présent, c'était d'essayer de tirer tous les prix le plus possible vers le bas. Ce qui montre, si Amazon paye plus d'impôts, il faudra que ça soit répercuté soit sur des prestations facturées aux clients, soit, et ça c'est une crainte qu'il faut avoir, il ne faut pas qu'ils se mettent à pressurer encore davantage leurs fournisseurs que sont les éditeurs en leur demandant des conditions commerciales encore plus avantageuses. C'est ce qu'ils ont essayé de faire aux États-Unis. Il y a eu des bras de fer tout à fait longs et lourds entre Amazon et les grands éditeurs américains. Donc il ne faudrait pas qu'Amazon essaye de se rattraper en tordant le bras, si j'ose dire, aux éditeurs français qui n'ont pas besoin de ça.
Car Amazon, on s'en rappelle, a livré une guerre sans merci aux éditeurs américains pour leur imposer ses conditions.
Oui, on se rappelle notamment du conflit extrêmement médiatique avec Hachette, qui s'est soldé il y a peu sur un acteur tenu encore secret. On ne connaît pas vraiment ses conditions. On aurait donc des raisons de s'inquiéter. Mais Vincent Monadet, président du Centre National du Livre, balaie ses craintes en rappelant qu'il y a effectivement une spécificité du système français.
Dans d'autres endroits en Europe, ce que vous dites, je l'entendrai. Mais en France, tant qu'on est protégé par la loi sur le prix unique du livre et la loi sur le prix unique du livre numérique, ils ne peuvent pas se récupérer sur le prix de la matière première, du moins dans les métiers qui sont les miens, c'est-à-dire les métiers du livre. Tant que la loi Langue et sa version numérique sont là, le bras de fer avec les éditeurs, je ne vois pas du tout ni comment ils pourraient l'engager, ni comment ils pourraient le gagner. Donc je vois assez peu comment ils pourraient se récupérer, sauf à faire de la fausse occasion, ce qui, ça, de toute façon, est illégal.
Alors, reste tout de même que le vrai nerf de la guerre chez Amazon, eh bien, c'est les fameux frais de port. Une loi assez symbolique qui a été surnommée clairement loi anti-Amazon a été votée en France pour empêcher Amazon de cumuler à la fois les 5% de remise qui sont tolérés par la loi Langue et les offres sur les frais de port, ce qui rendait l'offre d'Amazon largement moins chère que tous ses concurrents. Mais reste que la masse de volume de vente du groupe lui permet toujours de négocier des conditions de frais de port absolument uniques qui font toujours de lui un concurrent absolument imbattable sur ce terrain.
Peut-être des réactions de la part de nos invités. Jorge Volpi, écrivain, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ?
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bon, je crois que c'est une très bonne nouvelle. Amazon, c'est ce géant qui a complètement bouleversé pas seulement le marché du livre, mais le marché du livre électronique. Et dans mon pays, Amazon vient d'ouvrir justement un énorme bureau. Et il va commencer à avoir des ventes énormes en Amérique latine.
Mexique donc,
oui. Oui, oui, tout à fait. Et on sait que d'un certain point de vue, toujours Amazon a fait un travail magnifique envers les consommateurs, mais toujours avec la politique d'écraser la concurrence.
De votre côté, Lionel Trouillot, est-ce que vous avez un avis sur ce géant donc,
Pas véritablement, sauf à dire qu'il faut souhaiter que les producteurs, les auteurs et ceux qui s'occupent de produire les livres, qu'ils ne soient pas toujours victimes des puissances du marché.
Un vœu pieux. Tout de suite, les brèves, Zoé.
Et l'on ouvre avec le groupe LVMH, qui appartient donc à la famille Arnoux, qui envisage de s'offrir tout simplement le journal Le Parisien. Le groupe, qui est déjà propriétaire du journal Les Échos, a fait aujourd'hui une offre pour le rachat du quotidien. Le Parisien, donc, est son édition nationale aujourd'hui en France, qui appartient aujourd'hui au groupe Amaury. Une offre, selon Le Figaro, de 50 millions d'euros. Une réunion extraordinaire de la rédaction est prévue aujourd'hui. LVMH n'a pas souhaité commenter cette offre.
Le festival OFF d'Avignon fête cette année ses 50 ans avec un nombre record de spectacles.
Et oui, cette édition 2015, ce sera donc celle des 50 ans. Depuis sa création en 66, le festival OFF a grandi jusqu'à devenir le premier marché de spectacle en France. Les chiffres de cette 50e édition qui ont été annoncés aujourd'hui donnent le tournis. 1336 spectacles, 1071 compagnies seront présentes avec plus d'1,3 million d'entrées disponibles dans 127 lieux. Ce sera du 4 au 26 juillet prochain.
Pour ceux qui veulent jouer au loto, c'était le coup. Hein, là.
C'était ça, c'est moi.
Dany Laferrière, reçu demain à l'Académie française.
L'écrivain qui occupera le fauteuil numéro 2 sera celui de Montesquieu quand même, sera à la fois le premier haïtien et le premier québécois à siéger sous la coupole. Lors de son intronisation, il portera un costume confectionné au Québec par Jean-Claude Poitras avec un col semblable à celui du libérateur d'Haïti, j'ai nommé Toussaint Louverture. L'épée qui lui sera remise est signée du sculpteur haïtien Patrick Villers.
Et la dernière ?
C'est une petite histoire de géopolitique, d'oreillettes et surtout une histoire d'Eurovision. Et oui, je sais que vous en êtes absolument fous tous ici, car l'Eurovision, c'est
cette
bientôt.
Cette fille est en pleine science-fiction.
L'excitation monte chaque pays.
Elle survend son truc pourri, ça va être atroce.
Je disais donc que les pays bichonnent leurs candidats. Je rappelle que notre candidate, c'est la délicieuse Lisa Angel. Et un pays a décidé de prendre des mesures drastiques pour s'assurer que sa candidate sera dans les meilleures conditions possibles pour chanter. Ce pays, c'est la Russie, car la Russie fait partie de ces
Mais enfin,
pays.
C'est fini déjà l'Eurovision.
Ça a eu lieu.
Ça a déjà eu lieu l'Eurovision.
Oui, voilà. Non, excusez-moi, je suis absolument désolée. On a eu la finale là. Voilà. Alors, je voulais juste vous raconter le dispositif.
Waouh.
Pardon. Parce que c'est une nouvelle qu'on a eue que maintenant.
Ah.
Qui est
ça.
Que en fait,
un scoop.
La Russie.
Trois jours après.
La Russie avait mis un système de défense, c'est le terme de l'équipe, pour protéger sa candidate, parce que la Russie avait très très peur que la candidate soit sifflée, parce que c'était ce qui était arrivé l'année dernière.
Exactement.
Au moment de l'Ukraine, puisque ça avait commencé, le conflit en Ukraine avait démarré pile au moment de l'Eurovision. Et là, en fait, ils avaient carrément pris des mesures technologiques qu'ils avaient eux-mêmes financées.
Enregistré des applaudissements.
Ils avaient enregistré des applaudissements, pris des prix pour avoir des réducteurs sonores pour qu'on puisse à la fois masquer les huées s'il y en avait.
Et il y en a
surtout,
eu.
Et il y en a eu la jeune fille.
Ah merde, je me suis trahi, j'ai regardé.
Il y avait des jeunes filles qui avaient. La jeune fille, elle avait elle-même des oreillettes qui pouvaient la couper, puisqu'on s'était rendu compte, ils l'avaient testée, qu'elle était incapable de continuer à chanter si elle se sentait déstabilisée. Donc en fait, elle était totalement en autarcie, cette jeune femme.
C'est tout ?
Et c'est tout.
Mais c'est génial.
Bah écoutez, vous c'est pour demain. Vous dire que la Russie est un pays qui
Magnifique.
Sait faire de la défense et que Zoé Sved est une fille parfois un peu en retard sur des
non,
sujets
non, non,
primordiaux
un scoop, trois
comme
jours
l'Eurovision.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre ? Lionel Trouillot, par exemple, par rapport à Dany Laferrière, j'imagine ?
Ah, c'est une bonne chose.
Vous n'allez pas dire le contraire ?
Non, c'est une bonne chose pour Dany d'abord, et puis, ouais. pour Haïti. Vous savez, c'est un pays qui est tellement mal connu quand il y a des événements comme ça qui apportent une autre vision d'Haïti, que ça soit pas toujours les tremblements de terre, la catastrophe, la malédiction, enfin tous ces mythes un peu à la fois réactionnaires et condescendants autour d'Haïti, c'est une bonne chose. Sauf à corriger une erreur, Toussaint Louverture n'est pas le libérateur d'Haïti. Ça c'est quelque chose qui a été inventé par les Français parce qu'ils aiment bien la figure de Louverture, parce qu'elle est récupérable. Le libérateur d'Haïti s'appelle Jean-Jacques Dessalines, c'est l'homme qui a fait la guerre. Ça a été une guerre extrêmement violente, puisqu'on parle de Toussaint Louverture, c'est un peu pour oublier la violence coloniale et la réponse très violente que Jean-Jacques Dessalines, qui est le fondateur d'Haïti, a apporté à cette violence coloniale.
Il fallait bien que vous veniez ce jour-là. Ça tombe très bien. Merci à vous.
C'était un total succès sur la, de la culture.
Mais revenez demain.
Mais oui, vous pouvez le réécouter. Même
on invitera des gens qui n'ont aucune considération ni politique. Rien.
Le rendez-vous.
On ouvre sur la voie de Pascal Borel. Mais non, plateau Opéra Bouffe avec vous, Jorge Volpi, écrivain mexicain, ex-diplomate à Paris en Italie, associé dans les années 90 au groupe des Cracks. On y reviendra. Vous signez aujourd'hui Les Bandits au Seuil, un roman avec ouverture et finale, composé comme un opéra bouffe. C'est l'histoire sous forme de confession sans remords d'un escroc financier accusé du détournement de 15 milliards de dollars quand même au moment de la crise des subprimes à la fin des années 2000. L'élément déclencheur du roman pour vous, c'est un moment télévisuel. C'est la chute de Lehman Brothers en 2008. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ce moment et quelles sont les premières pistes de fiction qui se sont imposées alors ?
Bon, je me rappelle très bien de voir à la télévision la chute de Lehman Brothers et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il allait déclencher une crise énorme. Je suis mexicain, je suis né en 1968, et moi et ma génération, nous avons vécu 5 crises pareilles à cette crise. Donc à ce moment-là, je me suis rappelé des crises que j'ai vécues avec ma famille. Je me rappelle très bien de la crise de 76 et surtout de la crise mexicaine énorme de 82. Cette crise a changé complètement le niveau des vies de ma famille. Mon père était mexicain. Nous avons avant cette crise une vie assez normale, mais après la crise, tout a changé. Donc c'était à ce moment-là où j'ai vu la chute de Lehman Brothers que j'ai décidé de composer ces romans autour de la crise et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce type d'opération économique et quelles sont les décisions qui se prennent par certains politiciens et économistes qui changent complètement la vie des millions.
Manu Farine.
Le roman est surstructuré, donc conçu comme un opéra bouffe. 3 actes entrecoupés de duos, de récitals, d'interludes, duos, trios. Chaque acte emprunte même par son titre à Rossini, pour 2 d'entre eux, et à Don Giovanni de Mozart, donc sur lequel nous avons ouvert ce plateau, pour le premier acte. Comment cette structure-là, très marquée, s'est-elle imposée ?
Bon, j'ai décidé de raconter cette histoire autour de la crise de l'intérieur. Donc, je voulais créer un narrateur, un personnage qui soit un criminel financier et qu'il puisse nous raconter à nous qu'est-ce qui s'est passé et comment cette crise a été déclenchée dans les années 2000. Et à un certain point, je trouvais la figure d'un économiste et d'un investisseur américain d'origine cubaine qui s'appelle Alberto Villar. Mmh. Villar, c'était un personnage assez intéressant parce qu'il était devenu très très riche dans les années 90. Il était un des premiers investisseurs de Google, par exemple. L'unique passion de Villar, c'était l'opéra. Et il a décidé de financer des opéras partout dans le monde. Donc, il était un grand mécène à la Metropolitan Opera de New York, à Saint-Pétersbourg, à Salzbourg, etc. Et en 2008-2009, la police a pris ce monsieur Villar parce que, en réalité, il avait utilisé un schéma Ponzi comme Madoff et tous les autres criminels financiers qu'on a connus à cette époque-là. Donc, j'ai décidé de raconter cette histoire à partir de ce point de vue. Et à un certain point, j'ai décidé de structurer le roman comme un opéra bouffe, un opéra qui montre les coulisses de cette crise et tous ces personnages qui sont un peu grotesques toujours.
À propos d'opéra, comme à tous nos invités cette saison, on vous a demandé de choisir un son qui vous a marqué et voici ce que vous avez apporté.
Testimone il sol ch'io miro, e irradia in anima la pia terra e il vasto spiro, e l'è creato in terra.
Identification de ce son Jorge Volpi et la raison pour laquelle vous l'avez choisi?
Oui, ça, c'est le duo de Otello de Verdi. Et je crois que l'unique chose que je partage avec mon personnage, qui s'appelle un peu comme moi, Volpi.
Ouais. Dans le roman, il s'appelle Volpi.
La passion pour l'opéra. Donc, mon père était d'origine italienne, mon grand-père était italien, et tous les deux, ils aimaient beaucoup l'opéra et surtout l'opéra italien. Italienne. Donc je me rappelle très bien d'avoir écouté ces morceaux. Et ces morceaux, c'est magnifique, c'est de l'Otello de Verdi. Et c'est l'unique partie où tous les critiques, et par exemple Georges Bernard Shaw, disaient que c'était l'unique partie de l'opéra où Verdi était supérieur à Shakespeare. Donc c'est pour ça qu'il m'a marqué beaucoup. Et c'est une pièce vraiment magnifique. C'est le moment où Otello décide de tuer sa femme, Desdemona.
Manu Farine.
Ce héros new-yorkais Volpi, donc fondateur et directeur d'une compagnie financière, grand mécène donc du Metropolitan, grand menteur, porte donc le nom de Volpi, c'est-à-dire non pas à peu près le vôtre, mais exactement le vôtre. Narrateur, menteur, est-ce que c'est aussi ce qu'il fallait entendre dans ce jeu d'identification ?
Oui, à un certain moment, je me suis rendu compte que ces romans étaient devenus une espèce de catalogue des mensonges. C'était, il y a dans les romans des mensonges publics et privés, des mensonges des familles, du monde de l'économie, de la politique, etc. Et j'ai décidé d'essayer de tromper aussi le lecteur et de lui faire croire au lecteur qu'il va lire directement les mémoires de ce J. Volpi et pas un roman. Et en espagnol, par exemple, et en italien, ce livre est sorti avec le nom J. Volpi. Non, Jorge Volpi, mais J. Volpi comme le nom du narrateur. Et comme ça, je crois que cette idée de tromper le lecteur, comme tous les personnages sont trompés d'une certaine façon ou d'une autre, et ça, je crois que c'était amusant.
Le roman se compose en trois actes, mais aussi trois histoires tissées les unes dans les autres. Il y a l'histoire de Volpi sur fond de crise de subprimes. Il y a l'histoire familiale du narrateur sur fond de mensonges familiaux et de suicide du père qui est accusé d'espionnage. Et puis il y a la grande histoire qui mêle le père du narrateur et Harry Dexter, Wright, qui était le fondateur du FMI, accusé d'intelligence avec les soviétiques. Et pour enfoncer le clou du mélange des genres, il y a donc la structure de l'opéra et encore en dessus, des photographies de personnages historiques et des photos de famille. Vous parlez volontiers de textes mutants. Qu'est-ce que cela dit de vous, de ce que doit être ou peut-être un roman, Jorge Volpi ?
Bon, justement, ça, je crois qu'un roman, c'est un monde et on peut imaginer et mélanger tous les éléments qu'on peut utiliser dans un roman. J'ai toujours essayé de faire ça. C'était un peu le modèle de cet auteur du boom latino-américain qui, pour moi, était vraiment des maîtres. Et
pensez à qui, Fuentes ?
Je pense à Fuentes, à García Márquez, à Vargas Llosa, par exemple, et toujours avec ces romans polyphoniques énormes qui créent, surtout les romans qui ont écrit dans les années 60, qui sont vraiment de chefs-d'œuvre. Et c'est à cause de ça que j'ai décidé de faire ce type de romans. Ces romans, Le Bandit, et c'est le quatrième volet, je peux dire, une espèce de tétralogie autour de principaux événements du XXe siècle, de ce début du premier siècle. Et tous les quatre mélangent histoire, fiction et science.
Lionel Trouillot, dans quelques instants, on va parler de votre poésie. On vous connaît ici comme romancier. Est-ce que cette définition d'un roman monstre, c'est quelque chose qui vous concerne aussi dans votre
poésie ? Oui, cela me plaît. Je ne sais pas si j'utiliserai le mot monstre, mais je pense que c'est un genre qui mérite d'être bousculé. Et moi, les romans qui m'intéressent, ce sont justement les romans qui essaient de pousser le genre hors de ses limites. Il y a peut-être aujourd'hui une littérature un peu trop conventionnel, où on sait que ça va être fancy, on va nous raconter une histoire autour d'un personnage. Je pense que il faut restituer au roman quelque chose de subversif, et en le prenant à chaque fois pour quelque chose qui est de l'ordre de l'expérimental. Moi, j'aime bien ces textes qui, comment dirais-je, font un peu le travail de déniaiser le genre, de le sortir hors de sa propre caricature, je dirais.
André Volpi ?
J'aime beaucoup ce que vous venez de dire. Justement, ce côté subversif du roman, c'est une partie qui, pour moi, est très importante. Sinon, on s'ennuie avec des romans qui racontent tout simplement une histoire facile, directe. J'aime plus ces romans, je ne sais pas si monstres, mais ces romans monde qui changent complètement la réalité.
Alors justement, si ces romans monde, si ces romans comme lieu de mélange étaient déjà à l'œuvre dans la génération précédente, hein, celle que vous venez de citer, quand vous vous réunissez autour de ce qu'on a appelé donc le groupe Crack dans les années 90, avec quoi s'agissait-il de rompre si ça n'était pas avec ça ?
Oui, c'était pas avec la forme, c'était pas avec l'ambition de ces écrivains qui pour nous étaient nos classiques, c'était de rompre avec une certaine idée de la littérature latino-américaine à l'époque, et même aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est toujours exotique, c'est-à-dire que l'écrivain latino-américain doit toujours raconter des histoires autour de l'Amérique latine.
Ouais.
Et c'était surtout cet énorme malentendu de croire que le réalisme magique, c'était la clé de lecture de toute la littérature latino-américaine. Le réalisme magique, qui était extraordinaire chez García Márquez, et était seulement lui. Mais ailleurs, on a imaginé dans cette époque-là que tous les écrivains latino-américains devaient raconter ces histoires en utilisant le réalisme magique, comme si le réalisme magique était une translation d'une réalité fantastique directement dans les domaines de la littérature.
Lionel Trouillot, est-ce qu'il y avait aussi le cliché du roman haïtien ?
Tout à fait, il y a eu des périodes différentes. Il y a d'abord eu le roman exotique où il fallait absolument mettre des cocotiers, il fallait que cela fasse un peu exotique, comme vous l'avez dit. Puis il y a eu un deuxième moment où on a voulu demander aux écrivains haïtiens qu'ils ne soient plus uniquement haïtiens. Il a fallu qu'ils deviennent d'origine haïtienne. Il y a eu le roman de la migration, le roman de l'exil. Donc on est soumis, je comprends très bien ce que vous dites, on est soumis, nous qui écrivons dans des pays comme le Mexique ou Haïti, on est soumis à un regard, je dirais, du centre de l'Occident qui nous réduit souvent à des caricatures et qui voudrait que tout le monde fasse la même chose. Heureusement, ni au Mexique, ni en Haïti, ni en France, nulle part dans le monde, les romanciers ne travaillent à partir des mêmes visions de la littérature. C'est-à-dire que la littérature haïtienne, la littérature du Mexique, porte autant de diversité en elle que la littérature française. Il faudrait bien qu'on commence à le reconnaître.
Dernière question, Manou.
Oui, pour le Temps des cendres, un précédent roman sur l'effondrement communiste, vous aviez, dans un entretien en 2008, fantasmé une distribution française pour une adaptation au cinéma. Il était question d'Isabelle Huppert, de Charlotte Rampling, d'Emmanuel Béart.
Ça va, comme une distribution.
Non, c'était pas mal.
À qui pourriez-vous penser pour Volpi ?
Ah, je ne sais pas.
Gérard Depardieu ?
Non, je ne crois pas.
Ah bon ?
Bon, c'est-à-dire. Ça serait magnifique, mais...
Ce serait pour ma transition, ça serait magnifique,
je
surtout.
Je ne sais pas si c'est exactement le type de personnage.
Pas tellement.
Je prends un comédien plus troublé, Mathieu Almaric, par exemple.
Celui qui ne cligne jamais des yeux.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
J'ai essayé la transition, j'ai perdu.
Non, c'était pas si mal.
C'était pas si mal, hein, Anne Boulay, vous, la professionnelle. Donc, chronique tout de suite, Vanity Fair avec Anne Boulay, en partenariat avec Vanity Fair, dont elle est la rédactrice en chef.
Pareil.
J'espère bien. Sinon, on nous a refilé le mauvais cheval.
Oh, on ne sait jamais, vous savez. Faire le portrait de Depardieu est aujourd'hui une mission quasi impossible. Parce que tout a été raconté, avec ou contre lui. Parce qu'il raconte lui-même absolument ce qu'il veut, quand il veut. Que sa vérité est à géométrie hyper variable. Que son sens de la provocation est aussi énorme que lui. Et que de toute façon, son statut de monstre sacré complique toute velléité de biographie. Parce que ce serait dommage de renoncer à s'intéresser au plus grand acteur français, il faut donc trouver à Gérard Depardieu un interlocuteur à sa démesure. Quelqu'un qu'il considère, qu'il calcule, comme disent les jeunes.
Mais alors qui est ce quelqu'un ?
Alors ce quelqu'un, c'est l'écrivain Sylvain Tesson. Ce quadragénaire auquel on accole généralement l'épithète voyageur a en commun avec le gros Gégé une attirance indéniable pour la Russie.
Mon Dieu !
Bah oui, bah c'est lui-même qui le dit. La culture russe, je la connaissais, je l'ai dans le sang, j'ai lu les Russes et j'ai su que j'étais chez moi, explique le natif de Châteauroux à Tesson. Ça leur fait déjà un sujet de conversation. Tesson, lui, a passé 6 mois tout seul dans une cabane de Sibérie avec pour unique compagnie la vodka et pour seule perspective, celle de se faire bouffer par un ours. Mais ça, c'était avant qu'il ne se casse la gueule au sens propre, en tombant de 10 mètres parce qu'il escaladait la façade d'un chalet à Chamonix l'été dernier. Résultat, 3 mois de coma, un visage redessiné façon cubiste, mais la tête et la plume sont intactes. Un écrivain slavophile à moitié mort et un acteur qui n'appartient déjà plus au monde des vivants. C'est une rencontre dans la pénombre, où l'absurde allège parfois un silence de mort, et c'est le cas de le dire.
C'est vrai ?
Oui, où l'on échange des vérités à l'université... C'est trop difficile à dire. Universalité fulgurante sur la vie, l'ennui, la douleur, ce que c'est que d'être un père qui a perdu son fils et vice-versa. Et soudain, ce monstre qu'on pouvait difficilement ces derniers temps s'empêcher de trouver plus saoulant que génial devient ce qu'il est dans le fond, un personnage dostoïevskien. Un moujik fêlé, un pêcheur fatigué. Un colosse qui répare les âmes mais peut briser les échines. Il dit qu'il a tout vécu et qu'il n'y en a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Il raconte l'ennui de vivre et ça n'est même pas chiant. Il balance ce qu'il faut de Saint-Augustin, mais pour une fois, on sent qu'il ne fait pas sa grosse maline. Parce que Tesson tient à distance et peut-être aussi parce qu'il parle la même langue et que c'est la force des artistes de nous la faire partager. C'est Vanity Fair de juin et c'est demain dans les kiosques.
Merci Anne Boulay. On se retrouve la semaine prochaine. Non, on se retrouve dans le mois prochain. Mais... Vous savez qu'on essaie d'avoir Gérard Depardieu pour son film Pour y intercéder pour nous.
Good luck.
D'accord, donc c'est foutu.
19-20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau vers moi-même avec Lionel Trouillot, romancier et poète haïtien, professeur de littérature, journaliste et co-directeur de la revue Les Cahiers du Vendredi. On vous a découvert ici en France à la fin des années 90 avec Rue des Pas Perdus, alors même que cela faisait 10 ans que vous étiez publié en Haïti. Vous signez une anthologie poétique aujourd'hui, c'est avec Main qu'on fait chanson, aux éditions Le Temps des Cerises. Et la première question que vous posez, c'est celle-là. C'est quand on essaye de l'écrire que se pose à nous la question de savoir ce qu'est la poésie, peut-on prétendre que c'est elle qu'on écrit ? Conscient ou pas conscient d'écrire de la poésie, vous vous souvenez de votre tout premier poème. De quoi parlait-il ? De quoi était-il question quand vous prenez la plume du côté de la poésie, Lionel Trouillot ?
Ah, mais c'était dans mon enfance, mais je crois que je m'en souviens. Je devais avoir 11 ans, c'était un poème à ma mère en vers dans le français d'Haïti pour un garçon de 10 ans. À l'époque, c'était un acte d'amour envers ma mère, mais je m'en souviens, mais j'ai préféré l'oublier.
Benoît.
Ce recueil compile 30 années d'écriture, 30 années, je vous cite, de démêler avec des intentions esthétiques et des questions humaines qui vous traversent, vous quittent et vous reviennent. En compilant ainsi ces intentions et ces interrogations, qu'est-ce que vous avez redécouvert de l'évolution même de votre littérature, Lionel Trouillot ?
Peut-être une démarche vers la simplicité. Peut-être qu'à un certain moment, quand on va vers la poésie, on va vers la poésie avec ses lectures et on essaie de faire comme quelqu'un d'autre. Ou même quand on n'essaie pas de faire comme quelqu'un d'autre, on est porté par, je dirais, une sorte d'intention de poétiser. Un peu comme Dubélé parlait de pétrarchiser. On essaie de faire, pas forcément à la manière d'eux, mais dans ce qu'on conçoit comme étant de la poésie. Je crois que ça a peut-être évolué avec le temps vers plus de simplicité.
La poésie, c'est quelque chose que vous avez travaillé vous-même, de votre côté, Roger Volpi ?
Bon, justement, mon prochain roman, c'est un roman, un vers. Et c'est un petit roman. Et sur ces romans a été tiré un film qui a été présenté au Festival de Cannes. Je viens justement de Cannes, de la première de ce film. Mais le petit roman, c'est un roman, un vers. Donc c'est la première fois que j'écris un vers, parce que ce n'est pas exactement la poésie.
Vous êtes essayé cet exercice ? De faire vraiment côtoyer le roman et la poésie chez vous, Lionel Trouillot ?
Je pense dans l'un de mes romans, Parabole du failli, bon, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui a vraiment existé et qui traversait les rues de Port-au-Prince en donnant du poème, en donnant de la voix. Il portait en lui tous les poètes qu'il avait lus, et dans ce texte-là, un jeu permanent entre le discours poétique et le récit.
Alors au rendez-vous, on a une théorie. Le centre d'un livre, c'est son inconscience.
C'est ma théorie.
C'est la théorie de Laurent Goumard.
Et elle est vraie, elle se vérifie chaque fois, vous allez voir.
Et quand il s'agit d'un recueil, on regarde le texte d'un peu plus près encore. Et là, au centre du recueil, un poème intitulé, et c'est donc pas un hasard, « Vers moi-même ». En quoi cette anthologie poétique vous dévoile plus encore que votre œuvre romanesque, Lionel Trouillot ?
Oh, je pense que la poésie étant le langage de la vérité, on se surprend parfois soi-même à se révéler. Ce poème qui se trouve au centre, hein, mais là, il faudrait que j'ai adressé des reproches à mon éditrice, parce que je n'avais pas pensé à cette histoire de centre, c'est vrai qu'on peut...
Mais personne n'y pense, c'est ça l'inconscient. Dit-il d'un ton de qui paralyse tout le monde.
Et d'ailleurs, un poème que j'avais jeté, parce que c'est vraiment 30 ans, des textes qui s'étalent sur une trentaine d'années, ce poème, je l'avais jeté, un très grand poète haïtien, toujours vivant, Georges Castera, disent les Français, Georges Castra, disons-nous en Haïti, je ne sais pas comment il a fait, il l'a récupéré, à l'époque c'était encore les machines à écrire, c'est pour vous dire combien c'est vieux, et il l'a publié dans une revue à mon insu, et ce poème a commencé à circuler hors de ma volonté. Donc en faisant cette anthologie, bon, j'ai dit, bon, écoutez, cette chose existe malgré moi, donc d'accord, je la reprends, mais...
Oui, ça marche.
Dommage que ça soit au centre, parce que peut-être que c'est... Ça révèle en fait les choses que je n'aurais peut-être pas voulu révéler.
Il y a vraiment une tradition d'écriture hein, dans votre famille, Lionel Trouillot. Votre père, ténor du barreau de Port-au-Prince, avocat conseil de la Banque Centrale, votre oncle, historien, et votre grand-père, juriste et juge, ont tous écrit des livres. Vous-même, vous avez fait des études de droit, vous êtes issu d'une famille d'avocats. Comment s'est opérée finalement la bascule vers l'enseignement de la littérature française et surtout l'écriture?
Bon, le droit, c'est un peu un vice familial du côté de la famille paternelle, mais aussi l'écriture. Bon, je suis le quatrième d'une fratrie, j'espère que les autres me parlent au nom de révéler au monde que je suis plus jeune qu'eux, mais j'ai un frère qui a écrit des chansons, qui a écrit de la poésie, qui a fini anthropologue, c'est un peu dommage, mais qui était aussi dans...
Ils apprécieront, continuons.
aussi dans ce monde de l'écriture, j'ai deux sœurs qui sont elles-mêmes romancières et poète, et moi je suis le dernier de la famille. Donc
Oui, d'accord, tous les enfants basculaient du côté d'une fiction ou d'une écriture véritablement littéraire alors.
Tous, et moi en fait les études de droit, s'il faut en parler, ça a été ma couverture, parce que justement mon père était tout ce que vous avez dit, donc un Trouillot ça fait des études de droit, donc c'était la dictature à l'époque et il me fallait boire des coups tard la nuit ou m'occuper de politique plutôt subversive, donc j'ai fait des études de droit pour donner l'impression que j'étais dans la bonne tradition familiale.
Jorge Volpi, ça vous parle, j'imagine?
Oui, parce que j'ai étudié droit aussi. Et c'était épouvantable. Et après, j'ai corrigé mon chemin et j'ai étudié littérature. Mais oui, aussi, je suis avocat.
La bibliothèque de votre père était, je crois, très fournie. Certains livres, en accès libre, vous ont, c'était l'expression que vous utilisiez tout à l'heure, déniaisé. Vous citez notamment Les raisins de la colère.
Ah oui, c'est un livre qui m'a profondément marqué. Bon, je l'ai dit souvent, bon, je ne suis pas né dans un milieu, je dirais, riche, mais je suis quand même né dans un milieu favorisé, dans un pays où, à l'époque, le taux d'analphabétisme était quand même de 65%. Je suis né dans une bibliothèque, j'ai jamais connu la faim, donc ça allait bien. Il y avait, malgré tout, à côté de moi, toute cette misère, cette injustice sociale qui était présente. Et étrangement, je la voyais sans la voir. Et quand j'ai lu les raisins de la colère, n'ayant rien à voir avec la réalité haïtienne, on est dans le sud des États-Unis, on est dans les années de la Grande Dépression, et voilà que ce livre m'a amené à voir le réel qui était autour de moi et que je ne voyais pas. Et je pense que la lecture de ce livre et de quelques autres a orienté ma conception de la littérature. Je considère l'écrivain comme un montreur, plus que comme un créateur. Le mot créateur n'est pas un mot que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a des choses que nous ne voyons pas ou que nous ne voulons pas voir. Et je pense que un peu le travail de l'écrivain, c'est de révéler à nous-mêmes ce que nous ne voulons pas voir.
Jorge Volpi, il y a eu pour vous aussi un livre qui a été un révélateur?
Oui, je crois que... Oui. Quand j'étais au lycée avec mon meilleur ami à l'époque, qui est un écrivain aussi, Eloy Ross, qui est aussi traduit en français, nous avons décidé de lire justement les grands auteurs du boom latino-américain. Donc à cette époque, à 16 ans, on avait lu ces romans de 800 pages chacun et c'était une espèce de révélation pour nous et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir un écrivain.
Comme à tous nos invités, Lionel Trouillot, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Le voici.
L'enfant de Dieu, quand il vint en mission de pêcheur sur la terre, fut nourri par Joseph, le menuisier. Il écoula son temps à faire monter et à faire descendre le soleil qu'il avait créé de toutes pièces du rire de son Père Céleste et en sa compagnie. Lorsque dans la rue passait le carrosse du roi de Juda, il y montait, s'y installait, sans que personne n'y vit quoi que ce fût.
Qui est, entend-on, Lionel Trouillot?
On entend, c'est une voix que je ne peux pas entendre sans émotion, on entend la voix du poète haïtien René Philoctète, qui est décédé il y a 20 ans. Et j'ai choisi cela parce que déjà, je ne serais pas moi ou celui que j'essaye d'être si je n'avais pas rencontré René Philoctète, et aussi parce que il y a de grandes injustices dans la circulation des textes littéraires. Dany entre à l'Académie, moi je suis ici, Franck Etienne, nous avons tous été marqués par René Philoctète. dans la littérature haïtienne, il y a une borne Philoctète.
Qu'est-ce qu'il a apporté? Parce que d'ailleurs, vous lui consacrez un texte dans l'anthologie poétique.
Il a apporté un sens de la dignité dans des moments extrêmement difficiles. Il a été, si vous voulez, le poète du vœu d'épopée d'Haïti, le poète de la confiance dans ce pays si souvent trahi par ses élites et totalement incompris du reste du monde, on pourrait dire ça comme ça. Et Philoctète a été vraiment la voix du rassemblement, la voix de l'énergie positive, poète de la dignité, poète de la bonté, poète du « nous avons à faire quelque chose de bien de nous-mêmes et de ce pays ». En plus, c'est aussi celui qui a le plus sang, c'est la créolité avant la lettre, même si je n'aime pas trop le vocable créolité, parce qu'il y a des choses extrêmement différentes qui peuvent se cacher derrière ce mot. Philoctète a été, si vous voulez, le poète de la créolisation. C'est-à-dire le poète qui a su lier la culture littéraire traditionnelle, qui était celle des élites, et la grande culture populaire. Et donc c'est le poète, je dirais, haïtien par excellence. Mais il ne faut pas prendre le mot haïtien comme un enfermement, il faut prendre le mot haïtien au contraire comme ce avec quoi je vais vers le monde.
Benoît, à propos de créolité, vous écrivez dans les deux langues, français et créole. Vous commencez les textes en créole pour ensuite les poursuivre en français, et puis inversement. Vous savez ce qui vous guide de l'une à l'autre, Lionel Trouillot ?
Là, honnêtement, je n'ai pas de contrôle. Je crois que c'est le texte qui décide. Et il m'arrive aussi d'écrire des textes dans les deux langues en allant jusqu'au bout. Il y a un poème pour un grand ami à moi, Pierre Buteau, historien haïtien. Ce poème, je l'ai écrit dans les deux langues, et c'est un peu le même poème. Je pense pas qu'il y ait au fait, la thématique ne change pas, ni le rapport à l'écriture en fonction de la langue. Les langues pour moi, ce sont les outils avec lesquels on travaille pour essayer de trouver sa langue, qu'on ne trouvera sans doute jamais, mais c'est un peu cette quête là.
Il n'y a pas des choses que vous préférez dire en français et d'autres en haïtien?
Étrangement, puisque à l'époque où j'avais 15-16 ans, quand je suis entré, je dirais, en littérature, on nous disait que le créole n'est pas une langue. Il a fallu des batailles politiques pour que le créole devienne aujourd'hui langue nationale, langue officielle, et qu'il soit enseigné à l'école. Donc c'était une fausse évidence, on ne pouvait écrire qu'en français. Et mes premiers poèmes d'amour, qui étaient très mauvais, je les avais écrits en français. Je me rends compte qu'aujourd'hui, quand j'ai le vice de tomber amoureux, cela me vient, je ne sais pas pourquoi, ça me vient en créole. On dirait que cette langue qui a été pour moi au début celle de la colère sociale est devenue un peu la langue de l'intimité.
Le rendez-vous, la session.
Eh bien, on va parler tout de suite une autre langue avec une voix délicieuse, celle de Pascal Borel, une session programmée par Elsa Béranger, mais sous la direction artistique de notre réalisateur Thomas Bou, et la mienne aussi. Elsa.
Oui, Laurent, Pascal Borel, c'est la voix acidulée de la pop française, et ça commence dans les années 80, puisque c'est la voix ingénument perverse du duo Mikado. Mais depuis 2004, Pascal Borel chante seul sur les mélodies de son compagnon Jérémy Lefebvre. Pour son troisième album, par ailleurs, elle signe tous les textes, à l'exception d'un titre, Tu mens, écrit par son fils. Comme toujours, une pop élégante, la voix douce et toujours en avant, les textes malicieux. En direct du studio 108, Pascal Borel nous chante « Pas ma faute ». C'est le premier titre de ce nouvel album. Elle est accompagnée de Mathieu au clavier. Pascal Borel, c'est à vous.
Pas d'affront, les ne pas s'y perdre. Et le bruit des vagues, trop assourdissant, par-delà les brisants. C'est le vent qui joue à me rendre folle. Tu n'y es pour rien d'autre qu'en bien même. C'est toi seul que j'aime. Ce n'est pas ma faute. C'est le vent qui joue à me rendre folle. Tu n'y es pour rien d'autre qu'en bien même. C'est toi seul que j'aime. Ce n'est pas ma faute. C'est le vent qui joue à me rendre folle. Tu n'y es pour rien d'autre qu'en bien même. C'est toi seule que j'aime.
Merci.
C'était Pascal Borel avec Pas ma faute, un titre extrait de son nouvel album Par ailleurs. Le disque sortira lundi prochain sous le label Modulor.
À propos de chansons, vous en avez écrit aussi, Lionel Trouillot ? Plusieurs.
Oui, j'ai écrit des poèmes qui ont été plus tard mis en musique, mais j'ai aussi écrit des chansons faisant acte de parolier en travaillant avec des musiciens haïtiens.
Avec qui ? Et quel genre, pour quel genre de répertoire d'ailleurs ? Pour quel genre de musique ?
Vraiment de la chanson, je dirais de la chanson poétique, de la chanson à thème ou de la chanson réaliste.
Et vous, de votre côté, Roland Volpi, je le vois sur
pas
le
pas des point. Chansons, mais vous pouvez imaginer que je crie libret d'opéra.
Et je crois que le prochain roman, c'est un chef d'orchestre, c'est ça qui sera le héros du roman ou c'est...
Ça sera un roman que je n'ai pas écrit encore. Le prochain roman, c'est un roman en vers qui s'appelle Las Elegidas, Les Élus. C'est une histoire autour du trafic des femmes au Mexique.
Il y a un réflexe ici, on ne vous l'a pas fait le coup, mais je crois qu'on vous le fait souvent, Lionel Trouillot. Quand on s'adresse à un écrivain haïtien, ça consiste toujours à en faire le porte-parole de la société haïtienne. J'imagine qu'on vous fait le coup à chaque fois. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de sollicitation, alors même que pour vous, je vous cite, il n'y a d'écriture que politique? Comment vous vous en sortez de cette histoire?
Ça dépend de la manière dont la chose est...
Comment vous avez apprécié la manière dont j'ai apporté ça?
Non, parfois il arrive que... les questions soient portées avec une agressivité ou dans une banalisation, je dirais, du travail d'écriture littéraire. Donc, il m'arrive parfois de dire, écoutez, je suis pas sociologue, je suis pas journaliste. Si vous voulez, je peux vous indiquer qui il faut aller voir en Haïti pour vous conduire dans les bidonvilles et à quel journaliste ou spécialiste de la réalité haïtienne, quel spécialiste haïtien de la réalité haïtienne il faut vous adresser. Mais, dans d'autres cas, et je crois que je réponds quand même à ce genre de questions, parce que comme je le dis souvent, nous, écrivains haïtiens, on s'intéresse aussi à nous, parce qu'il y a ce mystère Haïti quelque part derrière. Et une fois, j'avais dit au Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo, nous étions 11 Haïtiens, et parmi nous, il y en avait qui disaient, on va pas parler de... la réalité haïtienne, j'ai dit, écoutez, soyons sérieux, ce sont parfois les morts qui nous payent nos voyages. Et si je suis invité à faire le tour du monde, parce qu'il y a quand même cette curiosité autour de la réalité haïtienne, donc quand les questions sont posées poliment et que je pense que je peux apporter un éclairage sur ce pays si mal connu, je réponds volontiers aux questions. Le travail de l'écrivain, c'est de révéler... à nous-mêmes ce que nous ne voulons pas voir.
Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il allait déclencher une crise énorme.
Merci à nos invités. Roland Volpi, Les Bandits, apparu aux éditions du Seuil. Je signale que vous êtes l'invité aux Subsistances à Lyon et peut-être aussi à la Villa Gilet, les Assises internationales du roman. Ça, c'est à Lyon jusqu'au 31 mai. Vous serez présent jeudi à 19h pour un entretien avec Aurélien Bélanger. Toutes les infos sont sur le site de l'émission. Lionel Trouillot, c'est avec main qu'on fait des chansons. C'est aux éditions Le Temps des Cerises. Demain, c'est la sortie de Vanity Fair avec en couverture Le Gros GG.
Le Gros GG.
Comme vous le dites si bien.
Très, 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 très beau.
Et merci à Pascal Borel pour son interprétation. Il a des annonces, Elsa ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagane, Manou Farine, Axet Wendoy et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Sfès, chronique Anne Boulet, à la prise de son Clément Daté et Élise Leu, et à la réalisation Thomas Beau.
Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain ?
Alors là, il y a clairement des accords, François Hollande dit 600 milliards de dettes en plus depuis 2007. Est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est incorrect ?
Le débat, il se trouve surtout sur les chiffres qu'on choisit. Avec le Véritomètre, nous ne vérifions que les chiffres qui sont actés.
Demain, une émission politique avec Cédric Mathieu, Marie-Ève Malouine et Hubert Huertas dans le cadre de la journée spéciale sur France Culture Politique Changement d'air, l'évolution de la représentation politique dans les médias. Il est 19h53, vous êtes sur France Culture. Ah, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la comédie
française.
Alors, bonne soirée à tous et à demain. La prochaine fois, c'est Manou qui le fera.